Vida Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez aussi bien que nous. Que Dieu vous garde. Jésus m'a dit je t'aime, et je donne ma vie au sacrifice, je me mets à ta place pour te donner ma grâce. Tu m'as sauvé et tu m'as pardonné.
L'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Et voilà, c'est les messes qui arrivent. Merci Seigneur. C'est bien. Je voulais dire donc ce matin, vous pouvez vous asseoir, que l'Écriture que nous allons méditer ce matin est inspirée de Dieu et elle sert à enseigner, à convaincre, pour corriger, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nettes, et pour instruire dans ce qui est juste. Pourquoi ? Afin que l'homme de Dieu, c'est ce que nous sommes, sauf les femmes sont les femmes de Dieu aussi, comme ça, mais dans le Saint-Esprit, il n'y a ni homme ni femme. C'est afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, on n'est pas là simplement pour revenir chanter des cantiques, c'est très joli, j'aime beaucoup, mais on est là pour écouter, afin d'entendre, de comprendre la parole de Dieu, afin d'être corrigé, d'être enseigné, d'être convaincu et d'être instruit dans ce qui est juste. Amen, c'est pour ça que vous êtes là ce matin. Dieu vous bénisse, on va chanter un autre chant. Alain, tu nous rejoins?
Seigneur Jésus, je te remercie mon Dieu pour tes bienfaits, pour tout ce que tu nous accordes chaque jour. Et je te prie eh bien, de nous diriger toujours avec ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est inspirée. Je crois eh bien, que tu diriges chacun, Seigneur, selon ses convictions profondes, en rapport avec ta parole. Je te remercie, mon Dieu, de fortifier aussi chacun qui écoute sur Internet, toutes les demandes de prière aussi qui sont faites sur Révélation Bible. Allez, je te prie eh bien, d'accorder à chacun, selon sa foi et selon sa soumission à Dieu, eh bien, les exaucements de prière. Je te remercie, mon Dieu, pour toutes choses, Jésus.
Alléluia. Amen. Amen, Jésus. Encore un rebonjour à tous. Ce matin, on va faire une lecture dans Matthieu chapitre 16 et versets 15 à 19. 16, 15 à 19. C'est Jésus qui dit : Qui dites-vous que je suis ? Il parle à tous ses disciples. Il dit : Qui dites-vous que je suis ? Vous. Et puis c'est Pierre qui répond pour tous, il dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Jésus reprenant la parole lui dit « Tu es heureux Simon, fils de Jonas, parce que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Et il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Nous voyons Pierre qui, selon son habitude, selon son caractère, prend la parole, gonflé, il la prend au nom de tous. Il ne demande pas à ses copains s'ils sont d'accord, mais il la prend au nom de tous. Tu es le Christ. Bon, ça c'est la version grecque. C'est la version grecque. En fait, Pierre a dit tu es le Messie. Ça signifie le loin, je dis le loin de l'Éternel, parce que si je dis que le Messie, ça signifie loin de l'Éternel, il y en a qui vont penser que ça signifie d'être loin du Seigneur. Ça signifie être le loin de l'Éternel. C'est plus qu'un prophète. Un prophète est loin par le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais lui, il est plus, et il va le démontrer, Pierre, dans sa confession de foi. Il va dire, car qu'il est loin de la plénitude de l'Esprit de Dieu. Vous allez voir comment il le dit. Le mot Messie indiquait dans l'Ancienne Alliance la dignité royale. Machia, Messie, signifie oint. On oignait avec de l'huile les rois, on les oignait d'huile, parce que l'huile c'est le symbole du Saint-Esprit, et c'est ainsi, comme cela, que les rois étaient consacrés pour leur fonction, pour leur charge. Et c'était pareil pour les sacrificateurs, et c'était pareil pour les prophètes. Trois. Quand Pierre dit « tu es Machia, tu es Messie », il proclame que Jésus remplit ces trois charges. Il était le oint de l'Éternel, pas seulement un oint, mais l'apostrophe, le oint, le. Il est celui qu'on attend. C'est ça qu'il veut dire, Pierre, qu'Israël attend. Un roi qui est sacrificateur et prophète. C'est ça qu'Israël attendait. Et Pierre voit donc en Jésus l'accomplissement de toutes ses promesses. Il voyait la réalisation divine de l'ancienne alliance tout entière. C'est une exclamation, une proclamation extraordinaire que Pierre fait là. Il voyait le libérateur promis à Israël et au monde entier. Parce que l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, il est bien question d'un libérateur pour le monde entier. Mais Pierre ne reste pas là. Ce Messie qu'il a devant lui, ce bonhomme, c'était un bonhomme, hein, il était là, un homme. Il lui dit qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu. Et ça, d'une manière exclusive, tu es le Fils du Dieu vivant. C'est ce que la voix avait dit au bord du Jourdain, du haut des cieux. Vous vous rappelez, quand Jean-Baptiste était là en train de baptiser et que Jésus est arrivé, une voix s'est fait entendre disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je me complais ». C'était Dieu le Père qui parlait. Au Jourdain, la révélation avait été donnée publiquement. Mais elle n'avait pas été comprise, elle n'avait pas été crue, parce que voilà, on voyait un bonhomme qui se faisait tremper dans l'eau, puis c'est tout. Mais cette voix, c'était surprenant, mais bon, c'était étonnant. Dans Matthieu 4, 17, il est écrit, « Et voici une voix des cieux qui disait, le mot voici, et voici une voix des cieux qui disait, le mot voici, en grec c'est voi, et ce mot annonce toujours, toujours, une chose inattendue, une chose importante, quelque chose d'exceptionnel, comme dirait notre frère Francis. Jésus est donc la parfaite révélation de Dieu lui-même. C'est ce que Pierre comprend. Et puis, Jésus l'avait dit aussi, quelque temps avant. Il avait dit, « Nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Il l'avait dit. La révélation était donc donnée là, mais ce n'est que plus tard que la conviction de Pierre a été forgée, a été manifestée. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La révélation avait été faite publiquement et ensuite plus intimement dans Matthieu 11, 27, un jour que Jésus priait, mais ce n'est qu'en Matthieu 16, que Pierre confesse au nom de tous ces... Je pense qu'il avait parlé avec les autres quand même. Ils en parlaient aussi de temps en temps. Et pendant tout ce temps, entre le Jourdain jusque-là, Pierre a observé Jésus et ainsi il a forgé sa conviction. Il a pris le temps. Mais ce n'était pas fini. Parce que Pierre, homme sensible à l'esprit s'il en est, il n'en demeurait pas moins un homme quand même. Et d'ailleurs, juste un peu après, Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». Vous voyez, c'est bon. Est-ce qu'il pouvait bien cerner la profondeur de ce qu'il était en train de dire là? Moi, je pense que pas. Je pense que non. Je pense que non, il ne cernait pas vraiment. Il était dans une exaltation de l'esprit et il a parlé comme ça. En vérité, bien que Jésus ait toujours été fils de Dieu, la Bible nous dit qu'il a été déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Romains 1, 4. Et pourtant, Pierre avait déjà déclaré qu'il était le fils de Dieu. C'est des choses de l'esprit. Ici, nous sommes dans trois dimensions. Et on a l'habitude de tout analyser comme ça. Et avec le passé, le présent et le futur. Et ça nous donne des limites terribles. Avec notre intelligence, dont une partie est un héritage de nos parents, de nos grands-parents, etc., etc., en arrière. Et puis, l'éducation, et puis les expériences, mais c'est quand même très limité. Le monde de l'esprit est beaucoup plus vaste, et l'appréhension des choses de l'esprit ne se fait pas simplement avec ce que la Bible appelle la chair, c'est-à-dire nos limitations humaines. Pierre, homme sensible, s'exclame, sans vraiment comprendre la portée et de la profondeur de ce qu'il dit, il dit « Tu es le fils du Dieu vivant ». Pas le fils de Jupiter, pas le fils, parce qu'il y avait déjà plein d'histoires, des gens qui croyaient dans des fils de Dieu, le fils de Zeus, etc. Vous vous rappelez Arnold, hein? Pour les, notre culture, hein? Vous voyez où elle va. Hein? C'est Dieu sans vie, sans vraie vie. Ce n'était pas un de ces fils de Dieu que les hommes ignorants adoraient ou adorent encore, non. Il est le fils du Dieu vivant, le fils de la source de la vie, source unique de la vie, source unique de la vie de tout l'univers. Voilà ce que Pierre est en train de déclarer. Il est en train de dire, tu es la vie de Dieu, tu es Dieu. La vie divine se manifeste en toi. Plus tard, un autre jour, Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous d'autre qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jean 6, 68. Et ce n'est pas rien les paroles de la vie éternelle. Parce que c'est par la parole éternelle que toute chose est créée. Et si on écoute cette parole éternelle, alors quelque chose est créé en nous. Si Dieu dit quelque chose, c'est créé. C'est pourquoi Dieu ne dit pas « tu ne tueras pas ». Parce que s'il dit « tu ne tueras pas », personne ne tue jamais. Mais il dit « tu ne pourras pas tuer impunément ». Parce que quand Dieu dit quelque chose, ça se crée. Dès le début du ministère de Jésus, les apôtres ont vu Jésus de Nazareth, fils de l'homme. Et puis leurs impressions, elles étaient sur une balance. Il y avait d'un côté les grands faits, les grands sermons, les grandes paroles extraordinaires que Jésus disait, les miracles qu'il faisait. Et puis aussi, il y avait l'autre côté de la balance, c'est-à-dire ce côté fugitif du petit groupe un peu minable qui était obligé de fuir parce que les religieux leur cherchaient des noises. Et ça, ça avait quand même jeté une ombre, un voile sombre sur la manifestation de la gloire de Jésus. Alors, qu'est-ce qui doit être admiré le plus dans cette histoire, dans cette déclaration, dans le fait d'être arrivé à pouvoir déclarer ça? L'élan de Pierre qui casse le moule de la pensée juive, bien sûr, c'est admirable. Est-ce que c'est admirable le fait qu'il casse le jugement des chefs religieux? Est-ce que c'est admirable? Oui, c'est admirable. Il s'élève au-dessus de l'opinion populaire, c'est admirable. Et qu'est-ce qu'on doit le plus admirer? De trouver élevé et divin ce qui semble humble et foulé aux pieds par la majorité? Qu'est-ce qui est le... Ou alors doit-on admirer la personnalité de Jésus, qui est le Fils de Dieu tout-puissant là dans la chair, cette personnalité malgré la puissance accablante des circonstances extérieures, parce que c'était pas drôle, c'était dangereux. Il arrive à obtenir de ses faibles disciples, presque tous illettrés, une expression de foi aussi franche, aussi pure, aussi nette. Tu es le Fils de Dieu, le Christ, le Oint. Marc, il déclare ce que Pierre a dit, tu es le Christ. Luc, il dit que Pierre a dit, tu es le Christ de Dieu. Jean, il écrira que Pierre a dit, tu es le Saint de Dieu. Il n'y a que Matthieu qui nous dit que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et seul Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus à Pierre suite à cette exclamation, cette proclamation. Il lui dit, oui, heureux es-tu. Heureux, c'est-à-dire en marche, en progression. Et vous savez pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, le présent et l'éternité se touchent enfin. Jésus dit, oui, tu es heureux, parce que pour toi s'ouvre la source du bonheur présent et éternel. Parce que dans le présent, cet acte tout petit, dans un coin, dans un champ, sous un arbre, je ne sais pas où, ça a été dit, ça a été manifesté. Quelqu'un a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le présent commençait à toucher l'éternité. Et regardez bien, je dirais même plutôt, écoutez bien. Parce que la Bible, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est écrit là, c'est pour notre instruction, notre correction, pour notre édification, c'est pour nous faire comprendre des choses élevées, afin que nous devenions nous-mêmes accomplis. Jésus dit, heureux es-tu, dit pas Pierre, il dit, Simon, fils de Jonas. C'était le vrai nom de Pierre. Il était le fils de Jonas et il s'appelait Simon. Et là, il ne lui dit pas, heureux es-tu, Pierre. Non, il dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Pourquoi est-ce qu'il l'appelait par son ancien nom? Est-ce que c'est une erreur de la part de Jésus? Non. Il y a une réelle finesse là-dedans qui est d'une profondeur magnifique. Tout de suite après, au verset 18, il recommence à l'appeler Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, etc. Mais pourquoi là, il l'appelle Simon? Parce que Simon signifie... celui qui écoute, celui qui sait écouter et entendre. Parce que Simon signifie cela et Jonas signifie la colombe, l'emblème du Saint-Esprit. Simon, fils de Jonas, ça signifie celui qui sait écouter pour entendre et qui donc est fils de l'Esprit. C'est pourquoi la Bible nous dit que le premier commandement pour inaugurer l'ancienne alliance était le premier, écoute. Et là, quand l'alliance nouvelle, le présence touche l'éternité, la première chose c'est, tu es celui qui écoute. C'est pas magnifique ça? Il l'a appelé ainsi aussi pour lui rappeler d'où il venait. Son ancien nom à Pierre, ça lui rappelait, ça le ramenait à la pensée de ce qu'il était avant dans son état naturel. L'état naturel dans lequel il n'aurait jamais pu comprendre une chose pareille. Il aurait croisé Jésus 1000 fois à Carrefour, à Auchan, il ne l'aurait pas reconnu, il n'aurait pas vu que c'était le Fils de Dieu. État naturel dans lequel il n'aurait jamais pu comprendre, ni jamais confesser une telle chose, qui allait à l'encontre de tout ce qui était cru, qui était même pour les religieux un blasphème. En l'appelant des noms de sa nature ancienne, Simon, fils de Jonas, il lui fait mesurer le chemin parcouru. Et il le prépare à la vitesse de l'esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est l'énergie, c'est la lumière, ça va vite. Il le prépare à la déclaration solennelle qui va arriver, une déclaration extraordinaire sur l'origine de sa connaissance et de sa foi. La chair et le sang, c'est l'homme. La chair et le sang, c'est l'homme. C'est l'homme tel qu'il est quand il naît, l'homme qui est tel qu'il est quand il vit, sans la régénération de l'esprit, sans être régénéré par l'Esprit. Et ce n'est pas à ce niveau-là que l'Esprit divin agit. Ce n'est pas par la chair et le sang que ces choses sont révélées. C'est le Père seul qui révèle, qui ouvre les yeux à Simon, à celui qui sait écouter et comprendre. Mais pour que cela puisse être authentifié, il fallait d'abord s'adresser à la chair et au sang. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je me complais. Parce que la présence de Jésus avec Pierre, ce n'était pas suffisant. Même les miracles, ce n'était pas suffisant. Vous lirez dans Jean 6, 60 à 68, et vous verrez que la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie. Mais il vivifie quoi? La parole de Dieu révélée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Celui qui sait écouter pour entendre, alors il fortifie sa foi et sa révélation et sa conviction. La révélation faite au Jourdain, la révélation faite quand Jésus prie, voilà ce que l'Esprit vivifie. Et Jésus parle, et il ne l'appelle plus Simon, fils de Jonas, il l'appelle Petros, Petros au masculin, Petros, un roc. Mais ça, c'est du grec. Bon, Matthieu, il écrit en grec. Bien gentil, merci Matthieu, c'est super, c'est gentil. Petro, sur Petra, Petra c'est féminin, je bâtirai mon église. Alors ça c'est du grec, mais Matthieu, il ne l'a pas entendu comme ça quand il était avec Jésus, parce que Jésus ne parlait pas le grec, il parlait l'araméen. Et alors quel mot Jésus a-t-il employé? Ben certainement pas Petro ni Petra, il a employé un seul mot, Kephas, Jean 1, 42, Pierre, Kephas. Tu es Kephas, et sur ce Kephas, je bâtirai mon église. Il n'y a pas deux mots en grec. Il n'y a pas deux mots. Premièrement, voyons le mot église. Je bâtirai mon église. Ce mot se trouve nulle part dans les évangiles. Juste là, et puis dans un autre passage, dans Matthieu 18, 17, qui dit que, voilà, qu'il soit jeté hors de l'église. Vous vous rappelez peut-être ce verset. Le mot église, ça vient du grec ecclésia. Et ecclésia, ça signifie convocation. Ça vous rappelle rien, ça? Vous vous rappelez ceux qui ont écouté la prédication de vendredi? Convocation dans le tabernacle, dans le temple, juste devant le voile. Convocation. La tente d'assignation, c'est la tente de convocation pour quelque chose de légal, divin, légal. Et le mot ecclésia en grec, c'est le même. C'est le mot convocation, mais en dehors de tout, même en dehors de tout but religieux. On est convoqué pour aller à la gendarmerie, on est convoqué pour aller à la réunion des parents d'élèves, on est convoqué. Ecclésia. Alors, quel mot Jésus a-t-il employé en araméen? On ne sait pas. Alors là, il faut faire un pas de foi. Ah, croire la parole de Dieu. Quand on pense que croire la parole de Dieu, c'est juste croire ce qui est écrit, eh bien, on se trompe. La parole de Dieu ne se suffit pas à elle-même pour être comprise. Encore faut-il que Dieu parle par ses serviteurs pour l'expliquer, pour la faire comprendre. Sinon, pourquoi Dieu aurait-il donné 5 ministères? Alors, quel mot Jésus utilisa-t-il? Sûrement le mot « kaal ». Kaal, parce que ce mot signifie « convocation solennelle du peuple d'Israël ». Un peu comme « assignation ». C'est à peu près le même mot. On pense, ça ne peut être que ça, parce que c'est le mot grec qui se rapporte, ecclésia, c'est le mot grec qui se rapproche le plus avec Kaal. Donc, Jésus ne désignait pas autre chose que l'ensemble de ceux qui croiraient en lui. Non pas une église avec un nom, pas du tout. Jésus était en train de parler de l'ensemble de ceux qui croiraient en lui. Matthieu 18, 17, le mot « église », là, ça ne devait pas être le mot « kaal », mais ça devait être le mot « synagogue »,« assemblée », qu'on le mette en dehors de l'assemblée. C'est celui qui pêche, celui qui fait des bêtises, etc., qui persiste là-dedans, qui veut pas qu'on le mette en dehors de l'église. Le mot « synagogue », « assemblée locale », si vous voulez, c'est certainement pas le même mot. Mais second est bien gentil, mais voilà encore beaucoup de choses à revoir. Alors maintenant, quelle prérogative Jésus confère à Pierre par ses paroles? Pierre est le roc sur lequel l'Église est fondée. Eh oui, mes frères et sœurs, mais quel roc? Celui qui entend la révélation. Parce qu'il a su écouter pour comprendre. Alors il est honoré, alors il reçoit une récompense, alors il est béni, il est en marche, il est heureux. C'est lui qui aura l'insigne honneur d'ouvrir la porte du royaume de Dieu au monde entier. La prophétie de Jésus s'est réalisée. Ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Pierre a fondé l'église parmi les juifs d'abord, acte 2. Ensuite parmi les samaritains, acte 8, 14. Ensuite parmi les non-juifs, acte 10. Et c'était fait. C'est lui qui avait les clés, c'est lui qui a ouvert. C'est lui qui a fondé. Et quand on lit ce que les apôtres ont écrit, quand ils parlent des apôtres, ils mettent toujours Pierre en premier. Vous regarderez Matthieu 10, 2, Marc 3, 16, Luc 6, 14, Acte 1, 13. Par là, vous allez voir que, aux yeux de l'Église primitive, Pierre a bien occupé le rang que le maître lui avait donné. Le maître lui avait donné ce rang, mais l'Église catholique a tort. Parce que Pierre n'a pas fondé l'Église de Rome. Il a ouvert l'Église aux païens, mais il n'a jamais été à Rome et il n'a jamais été l'évêque de Rome. Il n'a jamais fondé cette Église, il n'a jamais été l'évêque de cette Église. L'apôtre Paul écrira. Et puis les apôtres ne peuvent pas avoir de successeur. Non, imaginez un petit peu. Ça serait de père en fils, alors ça ne tient pas debout. Il n'y a pas de successeur, ni d'une manière, ni d'une autre. L'apôtre Paul écrira que l'Église, elle est fondée sur le fondement des apôtres et que Jésus est la pierre angulaire. Pierre a jeté le fondement, il a ouvert avec les clés, c'était bon, mais d'autres apôtres ont été ensuite beaucoup plus importants que l'apôtre Pierre. Lisez les Écritures et vous le verrez. Mes frères et sœurs, ce qui est important à retenir dans cette chose, dans ce qui s'est passé là, c'est que Simon, fils de Jonas, c'est ça qui est important pour nous, là, la parole qui sort ce matin, c'est ça qui est important. Simon, fils de Jonas, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est ce que nous devons être, heureux, nous devons être heureux. Nous devons être en marche, le mot heureux signifie en marche, achéri, en marche, sur une voie de rectitude. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Souvenez-vous, Simon signifie celui qui écoute pour entendre. Et Pierre était en cela le premier dans l'Alliance Nouvelle, comme c'était le premier dans l'Alliance Ancienne, c'était « Écoute, ô Israël, écoute !» Et Pierre était cette écoute, l'écoute de la révélation qui avait été faite au Jourdain, qui avait été faite dans la prière de Jésus. Simon, en fait, dans l'Ancien Testament, on pourrait dire, à la place de « Écoute, ô Israël », on pourrait écrire « Simon, fils d'Israël ». Voici les commandements. Simon, fils d'Israël, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et puis là, dans le Nouveau Testament, une chose nouvelle arrive, c'est Pierre. Et il lui dit, ce que tu liras sur la terre sera lié au ciel. Tout de suite, à partir du moment où le présent touche l'éternité, par le moyen de la révélation, par le moyen de l'écoute attentive de la parole de Dieu, alors tout à coup, voilà, ça se met en marche. Et Jésus lui dit, ce que tu liras sur la terre, ça sera tenu pour lié au ciel. Dans l'hébreu rabbinique, l'usage du mot lier et délier signifie défendre ou permettre. Ça signifierait donc que Pierre avait l'autorité, et les autres apôtres aussi, puisque plus tard, les apôtres ont reçu aussi cet ordre, ce que vous lirez, ce que vous délirez. Et puis, pas seulement les apôtres, mais toute l'Église aussi. Tous ceux qui sont prêtres. Et c'est ce que nous sommes, un peuple de prêtres. C'est ce que la Bible nous enseigne. On peut aussi rapprocher ça de Jean 20, 23, qui parle au sujet de retenir ou remettre les péchés. Vous savez, il y a des péchés il y a quelqu'un, là, en ce moment, j'ai retenu son péché jusqu'à mardi soir. Le temps qu'il se rende compte de ce qu'il a fait comme bêtise, et puis qu'il s'humilie devant Dieu. Et mardi soir, je lui dis, et mardi soir, je lui pardonnerai ce péché. On a le droit de faire ça. Dans des cas extrêmes, on ne doit pas abuser de ce pouvoir, mais dans des cas extrêmes, alors on peut le faire. Ce pouvoir est redoutable, et il est donné donc aux autres apôtres et à toute l'Église dans Jean 20, 23. Et maintenant, on peut, pas seulement on peut, mais on doit comprendre cela au sujet du mariage. J'explique. Le mariage, qu'est-ce que cela fait? Ça lie un homme et une femme. Ce que tu liras sur la terre sera également lié au ciel. Parce que ce fait de lier un homme et une femme au nom du Seigneur Jésus-Christ par les liens du mariage, dans l'Église primitive, c'était dans leur pensée, dans leur conscience, un lien éternel. Un lien qui comptait aussi les enfants, la famille c'est le trésor de Dieu dans le ciel. Un lien qui comptait les enfants et toute la famille qui allait en découler. Voilà pourquoi Paul disait au geôlier dans la prison, acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Quand nous sommes mariés, moi je me suis marié, on va bientôt fêter nos 40 ans de mariage avec la Michou, alors ça va être formidable. Nous qui nous sommes mariés, nous nous sommes liés pour l'éternité. ce moment-là, le problème, c'est que à l'époque, je ne savais pas ça. À l'époque, on disait jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et nous avons été liés par les liens du mariage pour l'éternité, si nous croyons que c'est pour l'éternité, parce qu'il en est toujours fait, toujours fait, toujours fait selon notre foi. Rien n'est fait selon sans notre foi. Si ce n'est pas notre foi, et notre foi elle vient de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend, de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend de la parole de Dieu, et si on n'a pas entendu, et si on n'a pas compris, eh ben, on n'a pas la foi dans la chose. Et alors on croit comme tout le monde. Et nous, nous avons toujours appris que le mariage n'est que pour la terre, c'est-à-dire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et ça, c'est de la religion apostate. Alors, nous avons besoin de manifester notre foi dans la volonté de Dieu qui nous unit éternellement. Maintenant, écoutez bien cela. C'est pourquoi je prends le mot « sceller les mariages ». Pourquoi nous scellons les mariages éternels? Qu'est-ce que ça signifie, sceller? Alors, je prends un dictionnaire, le dictionnaire Larousse, mon bon vieux dictionnaire Larousse. Vous allez me dire, oui, mais ton dictionnaire Larousse, il date de 1998. Mais le mot sceller veut toujours dire la même chose, je vous assure. Sceller, ça signifie, c'est marquer un acte par un sceau pour l'authentifier. L'acte a déjà été fait. Pour mon épouse, c'était le 8 juin 1974. L'acte a été fait. Nous avons été liés. Et maintenant, nous allons le sceller, c'est-à-dire le marquer par un acte pour l'authentifier. Magnifique, non? C'est ça que les mots ont une signification et nous aident à comprendre les choses. Nous allons sceller les mariages. Nous scellons les mariages. Nous les authentifions comme éternels au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux Simon, fils de Jonas. Sans ce scellement, l'acte de lier est réel sur la terre comme au ciel, mais le fait de sceller ce lien montre que nous avons la foi en cela, que nous y croyons, parce que nous savons d'une façon consciente, parce que nous avons écouté, pour comprendre et nous montrons par notre compréhension et par notre acte que nous l'acceptons malgré les croyances populaires qui veulent que nous soyons déliés à la mort. Nous sommes en cela des Simon, fils de Jonas. Nous cassons la croyance religieuse apostate. Nous scellons notre promesse, cet acte qui a été fait, dans le sens que nous confirmons notre alliance que nous avons faite en nous liant l'un à l'autre. Nous la confirmons à cause de la révélation qui est rétablie au sujet du mariage éternel. Là, au Mont Sinaï, c'était quelque chose de nouveau. Écoute, ô Israël. Là, quand Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant », c'était la nouvelle alliance. Dans cette nouvelle alliance, tout était là. Dans l'Église primitive, c'était cru. Ils le croyaient. Combien de temps j'étais étonné et je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire ce que l'apôtre a dit au geôlier, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et j'avais fait par une pirouette spirituelle, une espèce de glissade, je m'étais dit, l'apôtre a simplement dit ça au geôlier parce qu'il voyait que tous les autres étaient gentils, puis qu'ils étaient en train de se convertir, puis c'était juste pour cette famille, c'est pas pour toutes les autres familles. Eh ben, j'avais tort. Et Dieu me l'a montré, parce que j'ai cherché, j'ai écouté pour comprendre, j'ai voulu savoir. Et Dieu m'a éclairé. Amen. Vous voyez comment c'est. Vous voyez comment les choses se passent. Et ça se passe dans le temps, ça se passe dans le temps. Nous scellons notre promesse dans le sens que nous la confirmons à cause de la révélation qui est rétablie au sujet des mariages éternels. Cette croyance qui était là au début de l'Église, dans l'Église primitive, elle a été perdue, comme beaucoup d'autres croyances. Mais maintenant, elle est rétablie. Ce n'est pas une chose nouvelle. Ne dites pas que c'est une nouvelle doctrine. Non, ce n'est pas une nouvelle doctrine. C'est une doctrine qui est ancienne et qui est rétablie. Et Jésus ne reviendra que quand les choses seront. Il dit, il ne reviendra qu'au temps du rétablissement de toutes choses. Si nous ne participons pas à ce rétablissement de toutes choses, mais qui sommes-nous alors? Si nous ne participons pas, nous ne sommes pas des Simon, fils de Jonas.
entrons par la foi. C'est toujours par la foi. C'est jamais sans la foi. C'est toujours par la foi. Seigneur, sur ta parole, je vais jeter mes filets. Il n'avait aucune assurance, rien du tout. Simplement une parole. Il a dit, bien, je vais le faire sur ta parole. Je vais agir sur ta parole. Je vois que c'est dans la parole. Je vais agir sur la parole. Regardez le dictionnaire Larousse 1998 et les plus récents, si vous voulez. Scellé, il y a plusieurs significations et plusieurs nuances. Il y a par exemple sceller une promesse. Qu'est-ce que ça signifie, sceller une promesse? Le dictionnaire dit, c'est la confirmer. Nous nous sommes fait une promesse. Nous avons été liés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'apôtre Clément le Cossec, le 1er juin 1974, à Noisy-le-Sec, dans l'église des Roms. Pour ceux qui disent que je suis raciste. Vous voyez, mes frères et sœurs, eh bien, cela, nous allons le confirmer par le scellement du mariage. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu veut que les choses soient mises au sceau de la perfection. Et voilà pourquoi il nous ouvre les yeux pour que nous les comprenions. Soyons tous des Simon, fils de Jonas, de ceux qui écoutent pour entendre, ceux qui sont sur terre, des Jonas, c'est-à-dire des fils de l'Esprit. Merci Jésus. Veuillez bénir ces quelques mots et permettre que ceux qui écoutent même sur Internet et qui sont peut-être un peu ébranlés par ce que je viens de dire, puissent être des gens qui, comme Pierre, étaient des Simon, fils de Jonas. Des gens qui écoutent pour entendre, non pas qui écoutent pour contester, mais qui écoutent pour entendre, pour comprendre, et pour se lever et dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Merci mon Jésus. Merci mon Dieu. Tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? Nous voulons suivre ta parole. Merci Jésus de nous y aider, de nous en donner les moyens. Merci mon Seigneur. Amen. Amen.